Manuscrit 162. L'œuvre en Angleterre. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'ai pensé à l'église de Kettering, qui, la plupart du temps, reste sans prédication. Mais c'est le devoir de ceux qui font partie de l'église de se sentir personnellement responsables vis-à-vis d'elle et de faire tout leur possible pour la fortifier et rendre les réunions attrayantes pour les personnes de l'extérieur ou les non-croyants. Rien ne peut affaiblir une église davantage que la division et les conflits, et dans ce cas, rien ne peut nuire à la vérité et à Jésus-Christ plus que cet esprit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques 3, versets 11 à 13. Maintenant, que personne ne se vante d'avoir une grande sagesse ou un grand savoir-faire. Mais si une personne a de grands talents, ce n'est pas elle qui les mettra en avant, car ce sont ceux qui manquent le plus d'assurance et n'ont pas une grande confiance en eux que Dieu utilisera comme ses instruments de bonne volonté. Ceux-ci montreront dans leur conversation qu'ils sont en communion avec Dieu et ont reçu les leçons de douceur et d'humilité enseignées par le Christ. Mais avec les visions les plus élevées de Jésus, remplies de son amour, des paroles de sagesse s'épancheront de l'âme et feront vibrer leur cœur. Ces œuvres sont rendues manifestes, non par des fatuités pompeuses, mais au contraire, par l'humilité de la sagesse. Ces personnes ne prononcent aucune parole de mépris, mais ont une opinion très humble d'elles-mêmes, parce qu'elles ont une vision plus claire et précise de Jésus, de son saint caractère, de son abnégation, de son esprit de sacrifice et de sa sainte mission. Quand les hommes ont les mêmes vues que Jésus, ils ont toujours une vision très humble d'eux-mêmes. C'est lorsque les hommes perdent de vue Jésus, sa pureté, sa perfection sans tache, qu'ils se donnent de l'importance et deviennent prétentieux et imbus d'eux-mêmes. Et si on ne leur témoigne pas toute la déférence et le respect qu'ils pensent mériter, ils se montrent désagréables, insatisfaits et se croient offensés et sous-estimés. Ils révèlent leur véritable caractère d'une manière qui ne trompe pas, dévoilant leurs défauts en critiquant, en se plaignant, prêts à combattre tout ce qui contredit leur façon de voir, même quand ils sont réunis pour adorer Dieu. S'ils possédaient la sagesse, ils verraient l'influence et les conséquences de leur attitude si peu conforme à celle du Christ. Mais, aveuglés par la suffisance, ils ne discernent pas leur faiblesse et montrent à tous qu'ils sont indignes de confiance et ne méritent pas l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes. Ceux-ci iront de par le monde, ne faisant que très peu de bien en s'agitant et en se mettant en avant. Ainsi, par leur manque de sagesse, ils offensent la vérité et dénaturent en tout point la religion de Jésus-Christ. Au lieu d'amener les âmes au Christ, ils les rebutent et les détournent de la vérité. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas la grâce chrétienne pour les conduire dans la voie de la douceur et de l'humilité suivie par le Christ. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Si ces paroles venaient de moi-même, combien dirais « Sœur White est dure, elle ne me comprend pas ». Mais Dieu vous comprend et dit clairement que si vous avez de la jalousie et de la rivalité dans le cœur, vous n'avez pas besoin de vous glorifier en faisant passer cela pour de la vigueur chrétienne, car cela ne vient pas de Dieu, mais du diable. Même si vous déclarez croire en la vérité et que vous acquiescez à cette vérité, si vous n'avez pas la vérité telle qu'elle est en Jésus, vous ne pouvez la présenter que d'une façon personnelle, à votre manière, et vos paroles et votre attitude montrent que vous ne l'avez pas introduite dans votre vie ni dans votre caractère, mais que vous l'avez liée à une baie pleine d'épines. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. Je désire que vous notiez les fruits énumérés ici. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Y a-t-il dans l'Église des personnes intraitables qui défendent leur opinion à grand renfort d'arguments et avec assurance s'en tiennent à leurs idées et n'en démordent pas, et qui parlent comme si seule leur méthode était parfaite et incontestable? Ces personnes sont intraitables car elles ne sont pas converties. Elles ne se sont pas débarrassées de leur moi. Elles sont remplies d'amour-propre et ne manqueront pas de rebuter les non-croyants par leurs paroles et leurs méthodes en parlant de points contestables de notre foi avec vantardise et assurance. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Dans nos petites assemblées, l'intérêt pour les réunions risque de se refroidir si nous manquons de prudence. Évitez de faire de longues prières, gardez-les pour vous. Ne priez pas pour le monde entier. Allez droit au but. Priez pour demander les bénédictions de Dieu sur vous et sur l'assemblée réunie. Quand vous priez seul dans le secret, vous pouvez déposer devant Dieu tous les fardeaux de votre cœur. Mais devant l'assemblée réunie pour adorer Dieu, de telles prières sont déplacées. Elles refroidissent l'intérêt pour les réunions et rendent celles-ci ennuyeuses. Regardez l'exemple de prière donné par le Christ à ses disciples. Quelle prière à la fois courte et complète! En vous approchant de Dieu, priez de façon brève et simple. Ne déshonorez pas Dieu par vos prières oratoires ou en prêchant un sermon au Seigneur, mais venez à Dieu avec vos besoins et dites-lui simplement ce que vous voulez, comme un enfant vient à son père. Ayez confiance en votre Père céleste comme un enfant a confiance en son Père terrestre. Quand la réunion se tient en l'absence du pasteur, que quelqu'un dirige, mais ne consacre pas un long laps de temps à prêcher, dites juste quelques mots dans l'esprit et l'amour de Jésus et montrez ainsi l'exemple aux autres, afin que personne ne parle pour le plaisir de parler et pour tuer le temps. Prévoyez un moment de partage des expériences, que chacun puisse présenter son expérience personnelle, ses luttes et les victoires qu'il a obtenues. Par-dessus tout, laissez les cœurs reconnaissants louer Dieu pour avoir permis que Jésus vienne mourir pour eux. Voici un sujet sur lequel chacun peut méditer. C'est le devoir de chacun de sentir qu'il doit contribuer à la vie et à l'âme de la réunion. Faites cela, et les bénédictions de Dieu se répandront abondamment sur vous. Un message d'adieu aux ouvriers en Europe et en Angleterre en particulier. SS, ville de Rome, océan Atlantique, le 6 août 1887. Chers frères d'Europe, nous nous sommes associés à vous dans le travail pendant 2 ans. Nous avons réalisé une grande partie des bénédictions de Dieu en travaillant en Suisse, au Danemark, en Norvège, en Suède, en France, en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Nous avons vu que l'œuvre avançait lentement. La France et l'Italie ont été les champs les moins prometteurs. Peu de travail a été fait en Angleterre. Quelque chose a été fait, mais à un degré très limité. Et en voyant les grandes villes dans lesquelles aucun travail n'a été entrepris, nous avons compris qu'un travail plus important que celui déjà accompli devait être effectué dans les villes anglaises. Pour l'instant, la lumière semble avoir été mise sous le boisseau. Elle n'a pas été placée sur un chandelier où elle pourrait éclairer tous ceux qui se trouvent dans la maison. Actuellement, les perspectives ne sont pas des plus encourageantes. De nombreuses missions ont été ouvertes, mais les moyens étaient trop limités pour les soutenir, et les ouvriers trop peu nombreux et trop inefficaces pour engager le travail. Ma prière la plus fervente est que le Seigneur donne de la sagesse à ses serviteurs. Le Seigneur a de nombreuses possibilités en hommes et en moyens, mais les moyens sont concentrés sur la construction de nombreuses institutions dans certaines localités en Amérique. Les constructions s'ajoutent aux constructions, les maisons aux maisons, les terrains aux terrains, mais le Seigneur n'est pas favorable à cet état de choses. Son cœur rempli d'un amour infini ne se concentre pas sur certaines localités pour multiplier les moyens pour le salut des hommes à un seul endroit, tandis que d'autres lieux sont laissés dans le dénuement. Le Seigneur m'a présenté la question de façon claire. L'activité de l'édition n'aurait pas dû être transférée de Southampton à Grimsby. Elle aurait dû rester dans cette région importante où cette œuvre aurait pu gagner en caractère jusqu'à ce qu'elle puisse être transférée à Londres. Cette grande ville nécessite 100 ouvriers. Ainsi, ces ouvriers ne se rencontreraient guère si leurs champs étaient situés à différents endroits. Nos frères en Amérique doivent garder à l'esprit que des hommes et des moyens sont nécessaires en Europe et au-delà. Nos frères, dans ces régions, ont besoin du baptême de l'Esprit-Saint, comme les disciples le jour de la Pentecôte, afin de pouvoir discerner à la fois les choses proches et les champs lointains. Quand ils verront comme Dieu voit, ils feront des plans, trouveront des idées nouvelles et travailleront ensemble de manière plus désintéressée. Peu à peu, ils comprendront aussi que le champ pour l'évangélisation est le monde. Que ferons-nous pour Londres ? Londres a reçu trop peu d'attention. Ce qui a été fait par le pasteur Jones, qui est baptiste du septième jour, en préconisant le sabbat du quatrième commandement, a représenté très peu de choses. Et aussi longtemps qu'il travaillera comme il le fait maintenant, il obtiendra peu de résultats. La vérité présente, la vérité pour ce temps, est ce dont Londres a besoin. Nous devrions entrer dans les grandes villes avec le message de la vérité de Dieu, mais sans moyens ni ouvriers, nos perspectives sont très décourageantes pour un travail de ce type. Mais si le travail n'est pas engagé quand les circonstances ont l'air difficiles, il ne sera jamais accompli. Nous devrions faire beaucoup moins de manières et faire preuve de beaucoup plus de fermeté, d'assurance et de foi.
L'avertissement retentit. « Venez, car tout est déjà prêt. » À l'époque où nous vivons, le doute, l'infidélité, les conjectures et le pharisaïsme abondent pour détourner l'esprit des questions vitales en jeu. De fausses rumeurs, de fausses représentations du caractère de Dieu, la calomnie et toutes sortes de reproches seront répandus par le grand imposteur pour jeter le discrédit sur la parole de Dieu et sur ceux qui la défendent. Mais quelle voix dira « Quitte le champ, cela demande trop de temps et de moyens, car c'est un champ difficile et stérile. » Oh, ne laissez jamais cette voix vous pousser à quitter l'œuvre. Parmi les frères américains, nous voyons ce qui nous peine. La complaisance abonde dans l'Église, et le monde trouve un grand appui parmi ses membres, parce que l'abnégation n'est pas pratiquée. L'argent est dépensé pour des choses inutiles, et nous savons que cela signifie la restriction des dons qui devraient être employés pour la grande mission, bâtir le royaume du Christ dans notre monde. À mesure que le monde progresse et convertit l'Église à ses coutumes et à ses modes, et conduit le soi-disant disciple du Christ à s'abandonner à ses plaisirs, on vole le trésor de Dieu en retenant les dîmes et les offrandes qui devraient être versées afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. La nonchalance que l'on voit dans les églises et parmi ceux qui prétendent croire en la vérité porte ses fruits maudits. Ceux-ci sont représentés dans la parabole du serviteur paresseux qui a enfoui son talent dans la terre et donné une mauvaise image de son Seigneur qui lui avait prêté le talent pour qu'il le fasse fructifier. Oh, que tous ceux qui ont une connaissance intelligente de la vérité comprennent que leurs talents leur ont été prêtés par Dieu pour qu'ils les fassent fructifier en faisant des affaires avec les biens de Dieu. Ceux qui placent l'argent du Seigneur chez les banquiers recevront les félicitations divines. Supposez que ceux qui entrent dans le champ rencontrent une opposition. Ils n'en seront que renforcés s'ils travaillent comme le Christ, et s'ils n'ont qu'un talent pour commencer, il ne sera pas seul pour toujours. Il y en aura bientôt deux. Et si ces deux talents sont correctement utilisés, leur nombre doublera encore, car la sagesse divine sera transmise à l'âme humble qui marche par la foi, lui communiquant sa lumière dans les circonstances les plus décourageantes. Celui qui administre les biens du Seigneur, en faisant des affaires aussi fidèlement avec des centimes qu'avec des euros, apportera de grandes recettes au trésor du Seigneur. Chaque missionnaire qui va de l'avant, en cherchant à faire de son mieux, aura le soutien de celui qui pourvoira à tout le nécessaire. Le grand maître d'œuvre ne le laissera pas dans le besoin. La seule activité du missionnaire est de recevoir les ordres de Dieu et d'y obéir. Il faut chercher les âmes et présenter aux hommes la vérité dans sa simplicité.
Les missionnaires ne sont pas là pour étudier les règles, les coutumes ou les pratiques anglaises, mais pour faire tout selon le modèle qui leur a été montré sur la montagne. Si nos ouvriers n'apportent pas un nouvel élément divin à leur travail, qui sera comme du sel ajouté à un plat, ils peuvent tout aussi bien quitter le champ. Que les missionnaires fassent de leur mieux pour suivre le grand exemple. Nous avons des années de retard. Que les missionnaires obéissent aux ordres de leur grand capitaine et mettent de la vie et de l'énergie dans leur travail, Dieu donnera la puissance de son Esprit Saint. Les champs en Europe n'ont pas besoin d'un grand changement par rapport à la manière de travailler adoptée en Amérique, puisqu'ils ont besoin d'énergie et d'une rénovation qui les surprendra et les bousculera en les sortant de leur léthargie. Ils ont besoin de la puissance stimulante et vivifiante de l'Esprit Saint, qui seul se montrera efficace et donnera à l'œuvre un coup d'accélérateur. Si l'Angleterre est endormie, le Seigneur ne l'est pas. Le Seigneur accordera le succès à son œuvre quand ses ouvriers s'apercevront de l'urgence de la situation. L'ivraie a été semée parmi le blé pendant que les hommes dormaient,
et à moins que l'œuvre avance sérieusement, elle ne prendra pas les proportions prédites. Londres est un lieu important, et partout en Angleterre, les villes ne doivent pas être négligées. Dieu poussera ses agents à l'action. Dieu travaillera, et sa puissance sera révélée si les hommes coopèrent avec lui. Où sont les hommes, où sont les femmes, qui se donneront entièrement à l'œuvre ? Nous avons besoin tous les jours de la puissance de conversion divine. Les vieilles habitudes mécaniques et routinières devront être changées. Les vieilles coutumes et habitudes, longtemps chéries et idolâtrées, devront être abandonnées. Les hommes devront faire l'expérience d'une conversion quotidienne, afin d'être des agents actifs pouvant être moulés et façonnés comme l'argile dans les mains du potier. Les ouvriers doivent chaque jour apprendre des leçons à l'école du Christ, car ce n'est pas votre empreinte que Dieu apposera sur le caractère des membres d'Église. Donnez à Dieu la possibilité de marquer les esprits et d'apposer son empreinte sur le caractère et sur l'Église. Nous devons regarder à Jésus, lui, l'auteur de notre foi qui l'amène à la perfection, afin qu'en le contemplant, nous puissions être changés à son image et que son caractère déteigne sur le nôtre. Nous ne devons pas toujours conserver le même moule, mais refléter de plus en plus l'image de Jésus, afin que nous puissions conduire les hommes loin de leur moi pour qu'ils deviennent un avec le Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Jésus-Christ contient tout. Il est notre modèle.
Je suis désolé de ne pas avoir pu travailler davantage en Angleterre. Nous espérons voir l'œuvre progresser plus rapidement parce que nous savons qu'elle le peut et le devrait. Je vais présenter les besoins de l'Europe à nos membres. Je sais que certains en sentiront le poids et que d'autres ne feront rien, bien qu'ils puissent faire beaucoup. Ils sont endormis, endormis au bord même de l'éternité.
Conseil concernant l'œuvre en Angleterre. J'apprends que vous allez travailler en Angleterre. Ce pays m'a été présenté plusieurs fois comme un champ réclamant des hommes courageux et persévérants, des hommes désireux de coopérer avec les intelligences célestes. Mais j'ai vu qu'un grand obstacle à l'avancement de l'œuvre a été, et sera, que les hommes occupant des postes à responsabilité s'estiment capables de gérer l'œuvre eux-mêmes et veulent tout mener à leur manière. Chez beaucoup d'ouvriers, le « moi » vit et refuse de mourir. Maintenant, ce « moi » réclame la suprématie. Mais s'il est autorisé à gouverner, l'œuvre sera entachée, des pertes se produiront, le « moi » transparaîtra dans la gestion et des erreurs seront commises. Ceux qui s'engagent dans l'œuvre n'ont pas tous le même tempérament. Ils n'auront pas reçu la même éducation ou la même formation et ils travailleront sûrement sans se comprendre, puisque leurs caractères sont différents, à moins qu'ils ne se convertissent quotidiennement. Cette communication, adressée au pasteur Wagoner, était destinée à un public plus large puisqu'elle se termine par ces mots. « Je vous envoie cela, pasteur Wagoner, pour que vous en fassiez l'usage qui vous semblera bon. » Chaque jour, Satan a des plans à exécuter, des barrières à dresser sur la route des témoins de Jésus-Christ. Maintenant, à moins que les agents humains de Jésus se montrent doux et humbles de cœur, parce qu'ils ont appris les leçons de Jésus, ils tomberont dans la tentation tout aussi sûrement qu'ils sont vivants. Car Satan est un observateur rusé et subtil, et les ouvriers, s'ils ne sont pas enclins à prier, seront pris au dépourvu. Il les surprend comme un voleur dans la nuit et les fait prisonniers. Puis, il manipule leur esprit pour pervertir leurs idées et limiter leurs plans. Et si leurs frères, discernant le danger, leur en parlent, ils pensent être victimes d'un préjudice et croient qu'on essaie d'affaiblir leur influence. L'un tire dans une direction et l'autre dans la direction opposée. L'œuvre a été entravée, de mauvaises mesures ont été prises et Satan s'en est réjoui. Si le moi n'avait pas été si soigneusement et si tendrement chéri, de peur qu'il ne manque d'espace pour préserver sa dignité originelle, le Seigneur aurait pu utiliser ses différents caractères pour faire un bon et bien plus grand travail. Car c'est dans la diversité de leurs talents, mais dans l'unité en Christ, que se trouvait la puissance de leur utilité. Si, comme les différents sarments de la vigne, ils étaient centrés sur le cep, tous porteraient de riches grappes de beaux fruits. Une parfaite harmonie régnerait dans leur diversité, car ils participent tous à la croissance et au développement de la vigne. Le Seigneur est mécontent du manque d'harmonie parmi ses ouvriers. Il ne peut leur accorder son Esprit Saint, car ils veulent à tout prix agir à leur manière, alors que le Seigneur leur présente sa manière.
Un grand découragement viendra de Satan et de sa confédération du mal, mais vous êtes tous frères, et vous offensez Dieu en permettant à vos traits de caractère individuels et non sanctifiés d'être des agents actifs de découragement les uns pour les autres. Maintenant, le Seigneur vous aurait tous étroitement unis dans les liens de l'amour, chacun cherchant à encourager les autres dans l'espérance et la persévérance. Un esprit puéril de rivalité et de discorde a régné. Mais nous ne devons plus être des enfants, flottants et entraînés à tout vent. Nous nous trouvons au milieu d'une bataille sérieuse. Les ennemis sont nombreux et puissants, et déterminés à nous vaincre. Et si les ouvriers n'ont pas une aide spéciale du ciel, ils ne seront pas victorieux. Vous devez individuellement mettre votre volonté du côté de la volonté de Dieu. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous ne devez vous concentrer que sur les ordres de Jésus, car le Christ est votre capitaine. Vos façons de faire peuvent vous être très chères, mais être sans valeur aux yeux de Dieu, car elles se mettent constamment en travers de ses plans et interfèrent avec ses desseins. Que chaque ouvrier se revête d'humilité et s'assure d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et non de se prosterner devant sa propre idole, son moi. Frères anglais, je vous le dis dans la crainte de Dieu, vous avez des leçons à apprendre à l'école du Christ qui ne flatte pas du tout l'opinion que vous avez de vous-même. Dieu vous appelle, en tant que ses représentants, à former un tout uni, coopérant avec les intelligences célestes et animé d'un seul esprit, sanctifié par la vérité, pur et sans artifice. Parce que les divisions existent partout dans la société, le Seigneur Jésus aimerait que l'unité de ses ouvriers se distingue nettement par rapport à ces divisions. La force est dans l'unité, dans la division se trouve la faiblesse. En cherchant à répondre à la prière du Christ demandant l'unité de ses disciples, vous manifestez au monde cette puissance et ces principes de vérité, en accroissant leur influence dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Écoutez la prière du Christ, qui demande que tous ses disciples soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Différents dans leur esprit et leurs idées, les cœurs doivent être unis sur un point, la conversion des âmes à la vérité qui les attire toutes à la croix. Tous devraient travailler au maximum de leur capacité pour gagner les âmes au Christ. Vous ne devez pas vous critiquer les uns les autres, mais plutôt vous aimer comme des frères. Vous ne devriez pas vous sentir blessé parce que chaque plan est considéré d'un bout à l'autre. Mais beaucoup plus de progrès auraient été accomplis si, à cause d'une prudence excessive, vous n'aviez laissé échapper quelques occasions en remettant à plus tard un travail qu'il aurait fallu effectuer sur le champ. Vous devez être réactif, toujours prêt à agir de manière énergique et ne pas laisser l'ennemi occuper le terrain avant que vous ne soyez prêt à agir. Cette lenteur n'est pas dans la nature de Dieu, car Satan lui-même se presse et barre la route ou rendra la tâche très difficile quand vous aurez décidé d'agir. Dans l'Église, il faut du zèle et de la sagesse pour gérer ce zèle. Vous avez fait dans l'ensemble un travail trop insipide pour sauver les âmes. Si vous voulez voir un travail se faire à Londres et dans les villes environnantes, vous devez unir vos forces, être irrésistible et repousser l'ennemi jusqu'à la porte et planter fermement l'étendard pour signifier que la vérité triomphera. La timidité, l'hésitation sont un manque de foi, on en attend peu de résultats. Les ouvriers enfouiront-ils maintenant leur « moi » en Jésus ? Que le « moi » n'apparaisse pas, mais qu'ils célèbrent Jésus. Avec le feu de l'amour de Dieu brûlant sur l'autel de vos cœurs, faites fondre les barrières et avancez les choses le plus possible. Mais gardez à l'esprit que vous n'êtes que des agents de Dieu. Tout votre travail, tous vos moyens sont de peu d'importance si vous n'êtes pas imprégné de l'Esprit du Christ. Le Saint-Esprit doit modeler et façonner les ouvriers. J'aimerais que vous compreniez tous cela. L'unité des ouvriers doit être complète et une réelle ferveur et une inspiration venant de Dieu devraient être présentes pour leur enseigner comment gagner des âmes au Christ. Remercions Dieu pour les avancements réalisés, mais si les ouvriers avaient été unis dans l'amour et la foi, des progrès notables, inapparents maintenant, auraient été réalisés. Le fait que les choses bougent lentement en Angleterre n'est pas une raison pour que le grand travail missionnaire se fasse lentement pour suivre les habitudes et les coutumes des hommes par peur de les choquer. Ils ont besoin d'être beaucoup plus choqués qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Les affaires de Dieu exigent qu'on se hâte, les âmes périssent sans connaître la vérité. Mais ceux qui se sont engagés dans l'œuvre ne peuvent pas réussir s'ils agissent en écoutant leur propre volonté. Leurs lèvres doivent être touchées par une braise venant de l'autel. Ils doivent être imprégnés d'Esprit Saint. Ils n'ont pas le droit d'aller de l'avant et de prendre l'œuvre en main, à moins d'avoir d'abord rencontré le Christ dans le secret. Quelle que soit la nature de ses fonctions, aucun ne doit imposer sa propre volonté dans le travail. Dieu voudrait que les ouvriers en Angleterre tirent leur efficacité de lui. Alors, chaque ouvrier aura le sentiment de tenir un levier qui fera bouger le monde. Moïse, descendant de la montagne sainte, le visage resplendissant après avoir communié avec Dieu, le grand prêtre, sortant du lieu très saint, Ésaïe, venant de contempler le Seigneur, le Très-Haut, dont les pans de robe remplissaient le temple, ne sont jamais allés vers les gens avec une vérité plus grande et plus précieuse que celle que nous apportons en tant que messagers. La doctrine de la croix, la justice imputée du Christ. Cela parvient aux gens non seulement par des paroles, mais aussi par la puissance de Dieu se révélant à tout croyant. L'homme devient un collaborateur du Christ en ramenant les âmes à Dieu, en reflétant, par ses actes, le caractère de Dieu, dénaturé et falsifié par Satan. Nous visons trop bas. Nous hésitons, nous doutons. Avec notre amour propre, nous ne pouvons rien faire. La prudence est nécessaire, mais lorsque certains ouvriers sont sur leur garde et se hâtent lentement, s'ils ne sont pas unis dans le travail à ceux qui voient la nécessité d'être énergiques, beaucoup de choses seront perdues. Les occasions s'envoleront et la providence de Dieu qui ouvre les portes ne sera pas perçue. Quand des personnes convaincues ne sont pas portées à prendre une décision le plus rapidement possible, il y a un risque que leurs convictions s'effacent peu à peu. Quand la vérité est prêchée, des ouvriers sages et compréhensifs, des hommes et des femmes qui communient avec Dieu et tirent leur sagesse de la source de tout pouvoir, devraient s'efforcer d'entourer les personnes convaincues. C'est le problème avec les gens en Angleterre. Ils réagissent si lentement qu'ils doivent absolument prendre la décision essentielle pour eux, sans délai inutile. Que chaque orateur et chaque croyant en la vérité montrent par leurs actes qu'ils sont non pas des enfants ballottés à tout vent, mais des hommes et des femmes persuadés de posséder la vérité qui sauve. Fréquemment, quand une congrégation est sur le point d'accepter le sabbat, on reporte cette décision par peur des conséquences. Cela a été fait et le résultat n'a pas été bon. Dieu a fait de nous les dépositaires de la vérité sacrée. Nous avons un message de salut, qui nous a été ordonné de transmettre au monde et dont les résultats seront éternels. En tant que peuple, nous sommes en charge de la lumière qui doit illuminer le monde. L'œuvre a avancé lentement en Angleterre, l'incroyance a exercé son pouvoir pour retarder le travail de diverses manières. Satan fait le maximum pour barrer la route et ceux qui se sont engagés dans l'œuvre ne se sont pas tous consacrés entièrement à Dieu afin qu'il puisse les utiliser comme des vases de choix. L'absence de cette consécration véritable du cœur, de l'esprit et de l'être tout entier à Dieu, qui enfouit la volonté de l'homme dans celle de Dieu, est un sérieux problème. Le « moi » a été pour beaucoup dans le travail. Si le « moi » avait été caché en Christ, les ouvriers auraient soumis leur plan à Dieu et agi selon sa volonté. Oh, si ceux qui croient en la vérité en Angleterre avaient l'esprit du Christ, percevant le péril qui guette les âmes, quel travail serait fait entièrement en son nom ? Davantage de prières ferventes montraient vers Dieu, pas seulement dans les assemblées, pas seulement dans le secret, mais sans cesse, les prières seraient combinées à une action résolue. Demandez à nos frères en Angleterre, rassemblés en qualité d'église. Que faites-vous pour vos voisins ? Que faites-vous pour vos amis et relations ? Vous devez être en communion véritable avec Dieu. Chacun devrait s'exercer à l'abnégation pour pouvoir investir quelque chose dans le travail du salut des âmes. Oh, si tous pouvaient voir la brièveté du temps et le travail assidu accompli par l'ennemi implacable pour s'attacher le plus d'âmes possible, comme tous travailleraient avec zèle. Tous ressentiraient le désir intense de gagner des âmes au Christ. Je contiens les sentiments profonds de mon âme, sachant que vous avez des problèmes à résoudre, des préjugés et des coutumes à surmonter, mais je plaide pour les âmes pour lesquelles le Christ est mort. Vous ne devez pas travailler comme si vous deviez mener ce travail à bien par vos seuls efforts. Allez de l'avant, sachant que si vous avancez par la foi, les obstacles s'effaceront. Frères d'Angleterre, vous n'avez pas demandé assez, vous avez agi trop lentement. Travaillez dans la crainte de Dieu, en priant et en agissant, en dépendant constamment de Dieu. Tout le ciel est en émoi. Chaque croyant devrait prendre grand plaisir à coopérer avec Dieu. Il ne laisse aucun de vous lutter seul. Il envoie ses anges pour former une armée. Mais à moins que vous, mes frères,
vous détourniez constamment du moi pour recevoir les ordres du capitaine au lieu de suivre votre jugement défaillant, vous serez déçu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Sa présence, sa puissance sont exactement ce dont chaque croyant a besoin, et les dirigeants de l'œuvre doivent, par la foi et l'action résolue, inspirer la confiance et la foi de chaque âme qui croit. J'espère que personne ne sera découragé à cause de ma franchise. Il faut beaucoup plus de foi et tous les talents doivent être réellement mis en action avec un sérieux et un zèle correspondant à la grandeur de la vérité à présenter. Que le moi meure, alors chacun sera imprégné de l'esprit du Christ pour travailler non selon sa propre idée ou volonté, mais en parfaite unité avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vienne très près de vous pour que vous puissiez être une lumière brillante et éclatante pour ceux qui sont dans les ténèbres. Un jour après l'autre passe à l'éternité, nous rapprochant de la fin de la période de probation. Nous devons, maintenant plus que jamais, prier pour que le Saint-Esprit soit répandu sur nous en abondance et pour que son influence sanctifiante repose sur les ouvriers afin que les gens pour lesquels ils travaillent puissent voir qu'ils sont avec Jésus et apprennent de lui. Nous avons besoin d'une vision spirituelle, maintenant plus que jamais, pour être capable de voir loin et de discerner les pièges de l'ennemi et pour signaler le danger comme le fait une bonne sentinelle. Nous avons besoin de la puissance spirituelle pour pouvoir saisir, autant que l'esprit humain le peut, les grands sujets du christianisme et la grande portée de ses principes. Beaucoup ont besoin de foi. Ils devront combattre le bon combat de la foi chaque jour et même chaque minute. Emmanuel, Dieu avec nous, cela signifie tout pour nous. Quel grand fondement pour notre foi. Quel grand espoir d'immortalité pour l'âme croyante. Dieu est avec nous en Jésus-Christ pour nous accompagner à chaque pas de notre voyage vers le ciel. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous consoler, nous guider dans nos doutes, pour adoucir nos peines et nous protéger de la tentation. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, je supplie nos frères en Angleterre d'aspirer à l'unité, de cultiver l'amour, d'arracher la suspicion, l'envie, la jalousie et les pensées et paroles mauvaises de leur cœur. Agissez ensemble, travaillez comme un seul homme, soyez en paix entre vous. Je vous supplie, au nom de Jésus de Nazareth, de mettre de côté l'orgueil et l'amour du pouvoir. Devenez comme des petits-enfants. Quand la lutte sera terminée, vous deviendrez membres de la famille royale, les enfants du roi des cieux. Relisez sans cesse Jean 17. Cette prière de notre Seigneur à son Père en faveur de ses disciples mérite d'être souvent répétée et mise en pratique. Cela relèvera l'homme déchu, car le Seigneur a promis que si nous préservons cette unité, Dieu nous aimera comme il a aimé son Fils. Le pécheur sera sauvé et Dieu éternellement glorifié. Les anges et les archanges s'émerveillent devant ce grand plan de rédemption. Ils admirent et aiment le Père et le Fils en contemplant la miséricorde et l'amour de Dieu. Il n'y a aucun sentiment de jalousie, tandis que ce nouveau temple, rénové à l'image du Christ, est présenté dans sa beauté pour se dresser près du trône de Dieu. Mais je dois terminer ma lettre. Je vous envoie cela, pasteur Wagoner, pour que vous en fassiez l'usage qui vous semblera bon. Extrait de lettre d'Ellen White concernant l'œuvre en Angleterre. L'Angleterre ignorée. Il m'a été montré que nos missionnaires américains ont quitté ou ignoré la vieille Angleterre pour travailler à leur plus grand désavantage parmi ceux dont la langue ne leur était pas familière. Le travail n'a pas été mené aussi équitablement qu'il aurait dû l'être. Alors que les devoirs qui se présentent à nous ne sont pas remplis, nous ne devrions pas aspirer à travailler au loin. Pas un seul mot de découragement. Il faut que tous nos pasteurs soient prudents en écrivant les articles sur l'Europe qu'ils publient dans les journaux, en disant que peu de choses ont été faites là-bas. Maintenant, mon frère, je ne crois pas que je puisse encore dire cela, car je considère, vu les circonstances depuis la mort du frère, que du bon travail a été fait en Europe. Je pense que le professeur Kuntz n'a pas fait un bon rapport et que vos lettres n'ont pas beaucoup encouragé à envoyer des fonds pour soutenir les missions. Je pense que même en Angleterre, un bon travail a été fait. Il faut reconnaître que c'est un champ difficile et éprouvant, et pas un seul mot de découragement ne devrait être prononcé. Le Seigneur est à la barre, et si nous n'avons pas confiance en lui pour travailler, rien ne sera fait. Il y a eu un bon début.
les publications ont fait et continuent à faire du bon travail. Qu'aucune semence de scepticisme ne soit semée, car à moins de faire preuve de courage, nous ne pouvons espérer inspirer du courage aux autres. Je dis tout ce que je peux sur la mission qui puisse inspirer confiance. Quand je pense à la lenteur du travail mené en Angleterre et au peu qui a été fait au Massachusetts et dans le Maine, et dans beaucoup d'autres endroits où toutes les circonstances sont réunies en leur faveur, nous ne devons pas être découragés concernant la vieille Angleterre. La même somme de travail consacrée avec sagesse à la vieille Angleterre produira, je le crois, de bons résultats. Ma prière est que le Seigneur agisse. Et regardons à chaque signe positif. Reconnaissons tout ce que le Seigneur a fait avec gratitude. Ce n'est pas parce que vous ne constatez pas les mêmes résultats dans la vieille Angleterre qu'en Australie que vous devriez déprécier ce qui a été obtenu. Il y a des âmes précieuses à Grimsby, à Ulsby, et d'autres seront rassemblées. Il y a de belles âmes à Southampton, et le frère que j'ai rencontré chez le frère Jones, ainsi que les quelques-uns qui sont en relation avec lui, sont, selon moi, de bons éléments. Parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous sur tous les points, il nous faut traiter leur cas avec sagesse. Il faut rester unis partout où cela est possible et éviter d'élargir le fossé qui nous sépare. La sœur Griffin, je crois, répondra à l'appel si son cas est géré avec sagesse. On ne doit pas faire preuve d'indifférence à l'égard de ces personnes, mais nous efforcer de les amener à la noble vérité. Nous voulons cette femme comme ouvrier. Tout ce talent, nous devons le comprendre comme la faculté de gagner à la vérité. C'est une belle tâche de chercher les brebis et de nous efforcer de les y amener. Cela prendra du temps de les débarrasser de leurs idées étranges et de leurs vues incohérentes, mais nous devons être patients et ne pas les éloigner de nous. Dieu travaille avec ces personnes, et lorsque j'examine le passé, je vois les découragements que nous avons dû surmonter et devons encore affronter, tout aussi grands que dans la vieille Angleterre, en dépit des castes de la société et des difficultés à toucher les classes élevées. Maintenant, mon frère, ayez du cœur à l'ouvrage, et même si le travail avance lentement, néanmoins il avance, et remercions Dieu pour cela. Avec des moyens simples. Nous avons reçu et lu votre lettre avec intérêt. Nous sommes très attristés du fait que votre santé n'ait pas été bonne. Nous ne cessons de prier pour vous et pour le frère et la sœur Ings.
Nous n'avons pas perdu notre foi en vous et dans le travail en Angleterre. Nous savons qu'il y a un grand travail à faire. Le Seigneur nous a révélé que par les moyens les plus simples, il peut agir merveilleusement, comme lors de la destruction des murs de Jéricho. Son peuple devait alors faire ce qu'il leur avait dit, et Dieu ferait le reste. Dieu fit en sorte que son nom soit glorifié. Ce même Dieu est disposé à travailler par l'intermédiaire de qui il veut. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons besoin actuellement de Caleb fidèle dans l'œuvre. Nous avons besoin que Jésus, le capitaine de l'armée du Seigneur, soit avec nous. Nous devons suivre ses directives et avoir foi en lui. Nous luttons contre des adversaires invisibles, plus redoutables que des géants. Il est difficile de vaincre le diable. Il ne peut être vaincu par aucune arme excepté l'épée de l'esprit. Aucun plus grand nombre parle pour Jésus partout et agissent toujours pour lui. Appel à une lutte énergique. Je suis impatiente que vous veniez à nouveau nous rendre visite en Australie. Nous aimerions beaucoup que vous soyez le directeur de notre école pendant un moment. J'ai espéré que cela puisse se faire. Mais à nouveau, j'ai désiré que vous puissiez postuler à l'école de Battle Creek. Puis j'ai pensé à l'Europe, avec tous ses besoins, et j'ai gardé le silence, pensant que vous êtes à l'endroit où vous êtes le plus utile. L'Angleterre a eu assez peu d'ouvriers. C'est un endroit où ceux qui travaillent doivent faire un effort à chaque pas. Vous devez agir comme si vous pensiez que quelque chose allait céder et bouger. Seule une lutte énergique se révélera payante. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là-bas, et pourtant, j'aurais été si contente que vous ayez pu vous charger de notre école pendant un trimestre, ou plus. Que Dieu vous aide, c'est ma prière la plus sincère. Present Truth, la vérité présente, est un journal important. Vous y êtes à l'aise et vous faites du bon travail. Le Seigneur aimerait faire avancer les choses en Angleterre. Il désire qu'une école soit établie là-bas, et cela, personne ne peut le faire mieux que vous.
Le temps est court et ce travail essentiel doit être fait rapidement. Satan l'a remarqué et a usé de son pouvoir pour tromper et comploter et ainsi semer la confusion en Amérique, de sorte que le travail que vous et d'autres auraient pu ou dû faire a été rendue impossible. Et le travail qui aurait dû être fait en Angleterre a été bloqué par précisément le même pouvoir dont l'emprise s'est exercée en Amérique. La sagesse des hommes ayant perdu le contact avec la sagesse de Dieu, l'esprit d'autorité arbitraire qui s'est manifesté si résolument en Amérique, loin de s'être cantonné à ce pays, a étendu son pouvoir et contaminé d'autres pays. J'ai peur des hommes qui ont agi comme des aveugles. La cause et l'œuvre de Dieu réclament des hommes qui s'attelleront au travail que Dieu leur a confié. Si cela avait été le cas, les hommes auraient écouté le conseil de Dieu et non celui des fous, uniquement sages dans leur folie, handicapés par le manque d'équipement. Chaque âme de la famille Wessels peut gagner la vie éternelle, mais ils doivent quitter leurs associés en Afrique et intégrer une société différente. Vous parlez de l'Angleterre. Ne vous enhardissez pas à penser que cet endroit est le meilleur pour commencer votre travail. Rien n'est prêt là-bas actuellement. Nous avons été au travail ici pendant 7 ans et avons été handicapés et incapables de faire ce qui aurait dû être fait, faute d'équipement. Nous avons maintenant des ouvriers sérieux, d'une grande influence, et nous pouvons dire que l'Australie est prête à progresser. Il ne faudra pas des années pour faire tomber les préjugés. Nous avons maintenant grand besoin d'un sanatorium et d'un lieu adapté pour son implantation. Si vous étiez sur place aujourd'hui, vous pourriez comprendre la situation. 2 bureaux ont déjà été installés à Newcastle, un territoire où l'étendard n'avait pas été hissé jusqu'à ce que notre camp meeting ait lieu à cet endroit. Nous avons maintenant l'assurance que c'est l'endroit où il nous faut travailler. L'Angleterre est le champ le plus difficile, incontestablement, de la vigne du Seigneur. Les préjugés sont forts contre tout ce qui détourne les gens des sentiers battus. Le succès de ce travail pourrait prendre des années de labeur persévérant. Quelque chose doit être fait dans ce pays avec des moyens venant de notre propre peuple, et quelque chose sera fait. Mais maintenant, Dieu aimerait établir l'œuvre en Australie, car elle est mûre pour la moisson. Il aimerait que des monuments soient érigés au milieu de son peuple, ici, sous forme de sanatorium et d'école, pour donner à l'œuvre un caractère à la hauteur de son extrême importance. Puis, quand nous aurons obtenu un statut ici, ainsi que les équipements nous permettant d'aller de l'avant, nous pourrons préparer les ouvriers à mener le même travail en Angleterre.